Bonjour et bienvenue dans Petites Histoires d'Ovalie, une série produite par la région Nouvelle-Aquitaine qui part à la rencontre du rugby sur tout son territoire. Dans chaque département, nous rendons visite à un club amateur ou professionnel et nous vous racontons l'une des anecdotes les plus marquantes de son histoire. L'occasion de découvrir des pratiquantes et des pratiquants passionnés, amoureux de leur sport. Ce rugby qui contribue à façonner l'identité d'un territoire. Aujourd'hui, pour cet épisode, remontons le temps. En 2012, le Perorade Sport Rugby dans les Landes a vendu ses joueurs aux enchères.
Offrez-vous des joueurs de rugby pour quelques heures. Ce n'est pas une plaisanterie. 11 joueurs du club de Perorade, un village des Landes, se mettent en vente aux enchères. Pendant 3 bonnes heures, ces sportifs seront à votre entière disposition.
Le tout au profit des Restos du Cœur, ce qui devait être à l'époque une initiative décalée propre au rugby local, s'est transformé en une frénésie d'ampleur nationale. 11 ans plus tard, les enchères résonnent encore dans les têtes des rugbymen landais. Mathieu, qui a eu cette idée peu commune, raconte comment il a vécu lui-même l'étrange sensation d'être vendu.
Le concept, en fait, c'était « offrez-vous un joueur pour 3 heures ». C'est-à-dire de mettre en perspective et en lumière des capacités et des expertises que les joueurs avaient et de les vendre, en fait, au plus offrant. Et je suis à l'origine du projet de vente aux enchères et du concept, puisque je l'avais vécu, moi, aux États-Unis, où c'était un projet que j'avais en quelque sorte subi, puisque j'avais été moi-même vendu aux enchères à l'époque. Et je m'étais dit que ce concept n'avait été jamais vu en France. Et donc, c'est comme ça que le projet, à la base, je ne leur avais même pas présenté l'idée. Je vais imaginer ça et le concept de mon côté, valider avec les dirigeants et jusqu'à que je les intègre sur une vidéo et que je leur dise, les gars, vous pouvez plus me dire non. Et voilà, je vais vous vendre aux enchères et on va créer ce concept pour communiquer sur le club, montrer l'aspect aussi humain et caritatif que peut apporter le rugby. Et voilà comment j'ai embarqué Jeff et Cyril dans ce projet.
Ces derniers étaient joueurs au sein de l'équipe senior de Perorade, qui évoluait à l'époque en Fédéral 3. Ils ne s'attendaient pas à faire partie des heureux élus choisis pour être jetés en pâture à la foule, comme l'explique Cyril.
Et Mathieu nous met un peu devant le fait accompli un soir d'entraînement, en nous proposant de faire parler du club et de faire, comme il nous l'a dit, le buzz. À l'époque, c'était le mot à la mode, en nous disant, voilà les gars, pour faire parler de Perorade, on va faire quelque chose, on va faire une vente aux enchères. Vous allez vous présenter, vanter vos mérites, vous mettre la plus belle des tenues pour que le maximum de fonds soit récolté au profit des Restos du Cœur. Donc moi j'arrive dans ce club-là et je me dis que c'est bien pour s'intégrer de faire partie de cette aventure-là. Et du coup, voilà comment ça s'est passé. Ça s'est passé assez facilement avec... un groupe, on était une dizaine, je crois même un peu plus, donc avec différentes personnes qui ont été choisies sur le volet, et du coup, nous voilà partis pour l'aventure.
Ouais, donc les consignes nous ont été dictées, on les a appliquées à la lettre, comme bons soldats que nous étions. Derrière, forcément, on a fait ça entre copains, dans une ambiance très conviviale et bon enfant. Donc oui, il y a eu un petit succès à la soirée parce que c'était original comme événement, on n'en entendait pas parler. Tout le monde a joué le jeu, tout le monde a ramé dans le même sens. Et la soirée a été un succès, un franc succès, et puis tout le monde avait la banane.
Jeff, au sourire charmeur et malicieux, fait référence à la soirée des enchères qui s'est déroulée devant plusieurs centaines de personnes désireuses de s'attirer les services de fiers et beaux rugbymen dans la fleur de l'âge.
J'étais parti les chercher pour leur domaine de compétences, mais aussi par rapport à, on va dire, à certains leur popularité, par rapport à certains leur physique, comme Jeff, quoi. Et voilà, c'était... on va dire par rapport à leur code de popularité aussi, quoi. Il y avait une façon de jouer avec des mecs du cru. Et après, oui, il y avait vraiment une démarche aussi de compétence. Je sais qu'il y avait Kiki Duplaqué, par exemple, par rapport à le côté BTP aussi, la maçonnerie. Il y avait ce que j'avais mis, en fait, à la fin de la vidéo, et c'est ça aussi qui faisait le buzz, c'était tâches ménagères, travaux. Et bien sûr, pour avoir le petit clin d'œil et plus si affinité. Et ça, c'est vrai que je voulais pas qu'on joue principalement autour de ça, parce que sinon, je savais que ça allait partir complètement en vrille. Mais je savais que c'était quand même le truc qui ferait que les gens rebondissent dessus, et ça avait pas loupé. Mais après, il fallait quand même que les mecs puissent assumer aussi. Donc, c'était pas du proxénétisme non plus, quoi. Mais c'était une façon aussi d'arriver avec un clin d'œil. Moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, Adopte un mec, par exemple, venait d'exploser au niveau national. Il y avait des campagnes vraiment qu'on voyait partout. Et je me disais qu'on rentrait dans une mouvance qui était intéressante et que je savais que ça allait faire du bruit, quoi. Et ça n'a pas loupé, puisque le jour où on a lancé la campagne de communication, le soir même, j'étais en direct sur RMC au Moscato Show, Sud Radio. Et ça s'est enchaîné comme ça, sous un effet viral, puisque le concept a explosé dans tous les sens, et on a eu toutes les chaînes de télé qui sont venues, qui en ont parlé, les magazines, les journaux, et jusqu'à toucher 26 millions de personnes en 3-4 mois, quoi. Donc c'était quelque chose d'impressionnant, et en plus qu'on a récolté 4 645 € pour les Restos du Cœur.
Quand on montait sur scène, il y avait toujours quand même une petite appréhension, parce qu'on montait, on vantait nos qualités de service. Donc il y avait quand même une appréhension sur qui allait nous récupérer. Moi, il y a un père qui a surenchéri sur sa fille en dernier recours. Du coup, j'ai dû réparer son tracteur tondeuse. Et c'était le pharmacien du village. Gros fournisseur de produits pour le club, d'ailleurs, entre parenthèses.
Ouais, c'est un mécanicien, donc je vais lui faire des réparations sur mon tracteur. Changer la courroie, la transmission, enfin bon.
Franchement, j'étais pas le plus populaire encore. D'ailleurs, je le suis toujours pas.
Il a été bradé.
Mais en fait, c'est vrai que chacun, en fait, la présentation est montée un peu crescendo. Donc, en fait, c'était un peu... On se challengeait individuellement. Et c'est vrai qu'on a un mec au club qui était nommé pour se présenter. C'est donc Petit Vaud, donc de son vrai prénom Romain et de son nom Hernandez, Romain Hernandez, qui, j'espère, écoutera ce podcast. Et c'est vrai que lui, il nous avait fait une entrée fracassante, puisque en tant qu'agriculteur, il était venu avec son tracteur tondeuse. Et il avait traversé donc la salle des fêtes au milieu de tout le monde, bien sûr appuyé avec une bonne chanson qui va bien. Et c'est vrai que lui aussi, je crois que c'était le gagnant des enchères, puisque c'est lui qui avait rapporté le plus d'argent au niveau de cette vente-là.
C'est là où ils ont été énormes. C'est que moi, je leur avais juste dit, quand vous montez sur scène, mettez-vous en scène, justement. C'est un peu du théâtre, quoi. Et ce que j'avais peur, c'est que ça dure 10 ans. Mais au final, ça a duré 1h30. Mais les gens ont vécu un spectacle. En fait, c'est ça qui a été énorme. C'est que il y avait 800 personnes qui étaient là le soir de la vente aux enchères, ce qui était assez énorme. Il y avait même des bus d'enterrement de vie de jeunes filles. Pour te dire, c'était énorme. Et les joueurs se sont vraiment mis en scène. C'est-à-dire que tout le monde montait dans la tenue ou avec des instruments, avec des choses pour montrer pourquoi ils se vendaient. Et du coup, ça a été une vraie pièce de théâtre, quoi. Et c'est là où, justement, la magie a opéré.
Une magie redirigée vers l'antenne locale des Restos du Cœur. Pour Mathieu, c'était l'essence du projet. Il ne pouvait en être autrement.
Pour moi, c'était pas un projet qui permettait d'enrichir le club, en fait. C'est ça, c'était aux États-Unis. Mais aux États-Unis, justement, je l'avais vécu parce que il y avait zéro moyen dans le rugby à l'époque où j'y jouais. Et donc, le club profitait des nouveaux joueurs pour les vendre, pour récupérer de l'argent, pour payer les déplacements, payer les chaussettes, les maillots. Et là, je m'étais dit, on est un club, même s'il était amateur, en fait, il avait besoin de finances. Mais je m'étais dit, plutôt que d'être dans le direct, on va chercher de l'argent. C'était pas l'idée, en fait. L'idée, c'était vraiment de travailler aussi sur une campagne image, quoi. Et que pour le club, ça puisse être quelque chose qui soit valorisant et qui montre que le club avait vraiment des valeurs aussi autour du caritatif et de l'aide aux autres, quoi. Pendant un an, ça a permis de reverser je sais plus combien de milliers de repas, en fait, aux gens dans le besoin, quoi. Et l'idée, pourquoi les Restos du Cœur, c'est parce qu'en fait, j'avais vu un appel à la générosité nationale, en fait, du président des Restos du Cœur à l'époque, où on vivait c'était fin 2011, et où ils venaient faire un appel au journal de 13h, en fait, en disant, on a besoin d'argent, on n'a plus de bouffe, il y a de plus en plus de monde qui sont là pour en demander. Et je m'étais dit, banco, quoi. J'ai vraiment voulu le jouer local. C'est-à-dire, j'ai été tapé à la porte de l'antenne des Landes, qui était à Mont-de-Marsan. Donc, je suis allé, je me suis déplacé chez eux, je leur ai expliqué le concept. Et clairement, ils m'ont dit une chose, c'est on ne comprend pas ce que tu veux faire. C'était un petit papy qui était à la tête de ça. Quand je suis arrivé, je savais que j'allais un petit peu le sortir de son confort habituel. Et la réponse qu'il m'a donnée, c'est tu ne veux pas plutôt faire un loto. Et en fait, il m'a fait confiance. Je savais que si les gens investissaient, parce qu'il y a des entreprises même qui ont investi, donc ça permettait aussi de faire, vu que c'était pour une association, de faire dans une œuvre de mécénat. Et donc, du coup, de permettre aussi à des gens et des entreprises de défiscaliser, donc de faire monter les enchères, quoi, justement, c'était le but. Et quand on y réfléchit, il y avait 10 joueurs vendus, on a récolté 4 600 €, donc ça fait à peu près quand même 460 € par joueur, ce qui était complètement fou, quoi, en fait. Moi, franchement, je savais pas où j'allais.
Si au départ cela pouvait être difficilement concevable d'organiser une telle campagne caritative, les anciens joueurs saluent l'ouverture d'esprit qui, selon eux, caractérise le Peyrehorade Sport Rugby.
Justement, à cette époque-là, on était un groupe en senior qui cherchait une identité, qui cherchait à se reconstruire. On était plusieurs à monter des équipes jeunes et d'autres renforts comme Cyril et d'autres qui sont venus un peu de l'extérieur. Donc ça faisait un croisement, un carrefour de rencontres. C'est porté sur l'échange. C'est un club clairement qui est très ouvert d'esprit, qui est accueillant. Là, il y avait vraiment on cherchait à créer quelque chose. Et comme l'a dit Cyril tout à l'heure, on avait la chance dans le club d'avoir des personnalités fortes autour desquelles en fait le groupe s'est construit. Et voilà, ça a matché, comme on dit. Hein. C'est un groupe qui vit bien encore aujourd'hui, même si on n'est plus sur le terrain. On a joué entre 5 et 10 ans ensemble. Bon, ça crée des liens solides sur le terrain et en dehors du terrain.
Cette histoire-là, en fait, c'est vrai qu'elle nous a toujours liés, parce qu'après, bon, il y en a eu d'autres. Mathieu est à son coup d'essai, mais vu que ça marchait, on a un peu réitéré la chose sur les années d'après. Et c'est vrai que c'est quelque chose, on en reparle encore, on se rappelle, on revoit un peu les images, on revoit les coupures de presse, tout ça. Et c'est vrai qu'il y avait M6 qui était là, je m'en rappelle, les mecs qui étaient TF1, on est passé à l'époque, c'était à Canal+, c'était pas jour de rugby, voilà, c'était pas le Canal Rugby Club encore, mais bon, voilà. C'était une belle aventure, et c'est vrai que ça a fait parler de Peyrehorade, et de Peyrehorade Sport Rugby, et du coup, c'est vrai que ça restera dans les souvenirs du club. Ça colle parfaitement avec le club, l'esprit familial, une grosse cohésion des mecs qui ont joué le jeu vraiment à fond, sans rien attendre en retour.
Mathieu, qui gère notamment aujourd'hui une agence de communication, reconnaît que cette vente aux enchères a été un tournant dans sa vie.
Pour moi, c'est un des projets les plus dingues que j'ai fait, et c'est des tests. En fait, pour moi, un temps, le Peyrehorade Sport Rugby, c'était un labo, quoi, en fait, quoi. Et c'était mon premier labo où j'ai testé, j'ai tenté des trucs, et ce qui m'a permis aussi de monter la boîte, hein, c'est l'entreprise. Et ce que je disais, c'est que si, je pense, il n'y avait pas eu ça, j'aurais pas développé la boîte comme je l'ai fait.
Ouais, les gros, Internet, la télé, la radio, il y en aura le cul, petit bon, les gonzesses partout. À un moment donné, il va falloir gagner au match.
Car 11 années ont désormais passé, Cyril et Jeff sont devenus les dirigeants du club de rugby de Peyrehorade.
Peyrehorade, il est à une place qu'il a longtemps espéré et cherché. Donc, maintenant, Peyrehorade est en Fédéral 1. Peyrehorade, aujourd'hui, est, pour moi, au meilleur niveau qui puisse être au niveau amateur, de par ses moyens et de par ses infrastructures. Moi, je suis arrivé au club et de suite, je me suis très, très vite... très bien senti dans le club, avec des repères très forts, des gens très simples, des gens qui étaient là pour se faire plaisir, pour jouer au rugby. Et maintenant, moi, je suis toujours dirigeant du club, maintenant que j'ai arrêté depuis après Covid, donc ça va faire 2 saisons. Parce que justement, je veux rendre un peu au club ce qui m'a apporté, donc des amis aujourd'hui. Donc c'est pas anodin, quoi. C'est-à-dire que quand on rencontre des personnes comme ça, on a envie de rendre un peu ce qu'ils nous ont donné. Voilà, c'est un club, pour résumer, familial, avec des dirigeants qui sont très impliqués, qui donneraient tout pour ce club-là, des supporters qui sont présents. C'est un club qui me tient énormément à cœur. C'est pour ça que on y est toujours impliqué avec Jeff. Et Mathieu aussi nous donne toujours un coup de main quand on le sollicite.
Oui, c'est la famille rugby, c'est pour la vie. Et là, justement, moi, je m'en suis éloigné, mais je suis toujours là, en fait. Je suis le premier supporter de l'équipe. Je suis maintenant sponsor, même sponsor à mon tout petit niveau. Mais dès qu'il y a quelque chose qui se passe, je suis le premier à essayer de m'impliquer, à essayer de leur apporter encore plus de visibilité. Et donc, en fait, ça crée aussi des liens. Et moi, ce que j'aurais rêvé de vivre après ce qu'ils ont vécu, justement, en fait, entre la Fédérale 3, la Fédérale 2 et tout, c'était incroyable, quoi. Donc, en fait, moi, je le vivais par juxtaposition de supporters, quoi.
Pour les compères d'hier et d'aujourd'hui, le rugby reste constamment une affaire de don de soi. C'est offrir son courage à ses coéquipiers, sa détermination et son engagement à son territoire.
J'avais aussi à cœur de faire perpétuer cet esprit-là. Et notre rôle était justement d'apporter un autre élan, un autre dynamisme, en main dans la main avec le président et les dirigeants actuels, avec qui, justement, on s'entend très bien. Voilà, donc, c'est un projet qui nous anime parce que derrière, on sait l'impact que ça peut avoir pour les générations futures. C'est un outil, en tout cas, ça leur servira à trouver un réseau professionnel, un réseau amical, et justement, se retrouver avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Ça fait partie du bien-être de tout le monde, je crois.
En fait, voilà, le club de Peyrehorade, de par sa situation géographique, donc, on voit aujourd'hui qu'ici, sur le BAB, les gens sont tournés de plus en plus vers l'obligation d'aller se loger un peu plus loin. Et Peyrehorade, donc, ça devient une ville qui se développe. Et le club de rugby a ce devoir et cette ambition de pouvoir fédérer autour de lui. Donc, c'est-à-dire que nous, il y a quelqu'un au club qui travaille avec les écoles pour parler du rugby, pour parler de sport au niveau des enfants. Les dirigeants sont impliqués dans différentes associations. Et le club a vraiment cette ambition de fédérer sur son territoire avec les supporters qui sont là près du club, avec les joueurs, avec l'école de rugby. C'est vraiment en fait le bassin économique qui se développe. On le voit, il y a de nouvelles zones, une zone artisanale et économique qui s'est créée à la sortie d'autoroute d'Asting, donc qui est aux portes de Peyrehorade. C'est un territoire qui est en train de se développer et le club, on est obligé de se développer aussi. Et moi, fils agriculteur, j'étais obligé de... J'ai été à bonne école puisque j'étais avec des mecs qui étaient issus de ce monde-là. On veut en fait garder cette image du club, une image de club familial, simple, proche du territoire et avec des bons mecs et des belles personnes qui sont là et qui gravitent autour du club, quoi.
Bon, mais on est un club amateur, donc c'est évident. Il faut que l'on soit au plus proche des institutions publiques et privées dans tous les cas. Hein, on fait le lien, en tout cas le club fait le lien avec beaucoup de choses, entre le scolaire, le professionnel, l'amical, l'associatif. On a une bonne connaissance du marché de l'emploi et de la vie en entreprise. Et ça nous a été inculqué dans le passé. On a à cœur aussi de le transmettre. Ce sont des valeurs liées à l'effort, liées à des valeurs de travail, des valeurs d'engagement, de respect. On se sert du rugby justement pour les transmettre et justement d'inculquer aussi le goût du challenge qui est plus que nécessaire après dans la vie d'entreprise et dans la vie de tous les jours. Donc c'est un rôle éducatif. Donc voilà, c'était important de le préciser. C'est un sport, le rugby amateur est un sport dur, mais faut savoir en tout cas avoir mal et comprendre pourquoi on se fait mal pour les copains, parce que on récolte derrière sur le long terme. Voilà.
Et on voit que là maintenant, justement, avec cette Coupe du Monde qui arrive, c'est en train de, on va dire, d'exploser à tous les étages. On voit que le rugby est redevenu en fait l'image qu'il avait. Et sauf que justement, il faut pas que ça serve qu'à des opportunistes en fait. C'est juste ça. Ça aussi, c'est un message que je fais passer. C'est que quand en fait on s'implique dans le rugby, c'est que le rugby, il est pas pour soi en fait. Il est pour tout le monde. C'est un lien social. C'est quelque chose qu'il ne faut pas tirer. Il faut pas tirer la couette pour soi quoi en fait. Il faut le réfléchir et que ça soit dans le domaine professionnel comme dans le domaine amateur en fait. Le rugby, faut pas s'en servir en fait. Quoi, où il faut justement lui donner.
venez d'écouter un épisode de Petite Histoire d'Ovalie, la série consacrée au rugby en Nouvelle-Aquitaine, et surtout à celles et ceux qui le pratiquent et le font vivre dans une région dont ce sport est emblématique. À très bientôt pour de nouvelles aventures rugbystiques.